Chapitre 5 Marie au pain. Pendant que Jacques Balthus et sa fille traversaient les Hauts-de-Meuse, la mère à Condé entrait vers 11 heures dans la boulangerie de Madame Poinsignon pour acheter ce qu'elle appelait elle-même le pain des croix, de sorte qu'en ce même instant, 3 âmes, et c'est beaucoup, était uniquement occupé du jeune fils tombé à Bétincourt, il y avait de cela 6 années. Elle était presque gaie ce matin, étant libre de faire pour le petit ce qu'elle voulait sans qu'on pût lui reprocher de quitter la maison. L'air était froid, le temps clair, le ciel maillé, très haut de nuages blancs qui semblaient ne pas remuer, mais s'en allaient pourtant d'un mouvement tranquille. Neige fondante sur de l'eau bleue. Marie Balthus ouvrit la porte, s'approcha du comptoir, tenant bien ouverte du revers de ses mains écartées la poche à blé dont la toile en bas touchait le carreau de la boulangerie, et elle attendit que la boulangère apparût au bruit encore vibrant du timbre. Celle-ci vint, sans se presser, du fond de son jardin, la mine éveillée, les cheveux mieux que jamais frisés, le long du front, les tempes et les oreilles que caressaient 2 mèches dorées. Un coin de son tablier bleu était relevé et passé dans sa ceinture. En apercevant sa voisine, elle eut un léger mouvement d'épaule et en même temps un sourire qu'elle faisait à toute rencontre de clients. « Vous apportez la poche ce matin, Madame Balthus. C'est donc que vous allez loin. »« Mais oui. Le prix du pain a encore augmenté, mais ça vous est égal, n'est-ce pas ?»« Faut-il pas nourrir les enfants ?» « Donnez-moi du bien cuit, c'est celui qu'il aime le mieux. » La dame aux yeux bleus prit sur les étagères de métal plusieurs pains de 3 livres, les coupa en 2 ou 3 selon la coutume, jeta les morceaux dans la poche. Alors Marie Balthus tordit le haut du sac, en fit une sorte de câble sous lequel, se courbant, elle passa le bras gauche et l'épaule, puis se redressant, elle fut celle que les bourgs et les champs voyaient cheminer 2 ou 3 fois par semaine. La mère porteuse de pain. « Bonsoir et merci, Madame Poinsignon. Bonne chance, Madame Balthus !» L'inconsolée descendit entre les maisons de la place. Elle était vêtue de sa robe noire, la seconde, celle des voyages à présent, qui était bien usée, et sur sa tête, elle avait mis, retombant sur les épaules, un châle tricoté qui descendait en ligne droite le long de ses joues et lui donnait un air de religieuse. Au bas de la place, elle prit la rue qui s'en va vers le chemin de Lauterbach à Kreuzwald, mais ne la suivit pas jusqu'en bas. Aux 2/3 de la rue, entre 2 maisons, il y a un sentier qui remonte au nord à travers les cultures et sert aux gens du bourg et à leurs troupeaux à gagner le plateau bordant la frontière de la Sarre. Elle allait d'un pas régulier, les yeux un peu devant elle, mais sans regarder, songeant à l'unique objet. Le vent, sur ses cheveux gris, remuait en feston, vite effacé et reparu, les bords du châle. Marie se fatiguait à monter les pentes de ce long sentier. Elle ne s'arrêtait pas. 2 fois, cependant, elle interrompit sa méditation, élevant haut la tête comme font les biches dans les bois. Elle respira de toute sa poitrine et dit « Le printemps vient !» Le vent soufflait d'Allemagne. De là-bas, il était parti, sentant les marécages de Poméranie, mais voici qu'au-delà du Rhin, il abordait la terre transformatrice. Il avait touché nos premiers talus, où la primevère a toujours une fleur à ouvrir, humble et tout miel. Il avait rencontré le genêt qui risque sa voile d'or, les tulipes qui sonnent la cloche au-dessus de l'herbe, encore hésitante et courte, et dans la forêt proche, ce petit daphné rose, plus précoce que le personnage et qu'on nomme bois joli. Ayant hurlé jusqu'au Rhin, il commençait à chanter dans les campagnes lorraines et Marie, au cœur triste, le remerciait. Elle était essoufflée lorsqu'elle parvint à la lisière des grands bois d'Uberhorn, qui ne sont plus de France, mais qui regardent chez nous. Un peu de temps, elle suivit la frontière vers la droite, cherchant un arbre parmi les arbres de toute taille, réserves et taillis. Elle se rappelait que Nicolas, avant le départ pour le régiment, avait fait un pèlerinage au tombeau de Saint-Orange, qui est en Sarre, était passé par là pour s'y rendre et qu'au retour, il avait parlé d'un sapin géant brisé par la foudre à l'ombre duquel il avait déjeuné. Le souvenir pouvait ramener l'enfant. Elle découvrit ce tronc d'arbre brisé à une vingtaine de pieds au-dessus du sol et qui portait à cette hauteur une couronne de branches sans pareille. Les aiguilles de l'une rejoignaient les aiguilles de l'autre. Des débris de verre et de boîtes de conserve disaient que bien des promeneurs avaient dîné à leur ombre. Marie détordit la toile de son sac, prit un morceau de pain, un des gros, et le suspendit à un éclat coupant vrai couteau de bois jailli de l'écorce à portée de la main. Dans la croûte dorée, elle piqua un papier où elle avait écrit « Si tu passes par ici, Nicolas Baltus, ne crains pas de manger le pain, ne crains pas de te faire connaître. C'est moi qui suis venu, ta mère, Marie. » Puis, ayant regardé autour d'elle, prompte, elle chargea de nouveau la poche sur son épaule et reprit sa marche le long du massif forestier de l'Uberhorn. Après un temps, elle tira encore de son sac un morceau de pain et le posa sur le haut d'une croix qui est dans les terres à quelque distance de la route de Saint-Louis. Les cultivateurs du pays, revenus au travail après le repas de midi, la saluaient d'un bonjour quand elle passait, mais elle refusait de se laisser distraire et ne tournait point la tête vers eux. Elle l'inclinait un peu seulement, comme font ceux et celles qui remplissent une mission. Ils savaient, ces vieux, ces filles de Condé et des Hameaux, que c'était une mère malade de son amour. Elle s'éloignait, et quand elle eut ainsi voyagé et erré dans les premiers massifs de la forêt du Vente, elle rentra en Lorraine, traversa une route, et dans le bois de sapin qui est de l'autre côté, et près d'une ferme, trop lasse pour aller plus loin, se reposa. Elle s'étendit au pied d'un arbre, le dos appuyé à l'écorce du tronc, et s'endormit. L'après-midi commençait de s'avancer quand elle fut réveillée en sursaut. Autour d'elle, dans le bois qui est clair, une douzaine d'hommes assis, debout, vêtus de draps bleus, coiffés du casque, plaisantaient en la regardant. Hé, la petite mère, le sommeil était bon? La voilà qui s'éveille. Et qu'a-t-elle dans sa poche de toile? Dis, clocher, va donc voir ce qu'il y a là-dedans. Elle veut pas? Elle est fâchée? Allons, laisse-la, puisqu'elle veut pas. Le sergent va lui parler. Sergent Prunier, avance à l'ordre. Parlement avec la dame du bois. Elle s'éveillait, se relevait un peu honteuse. Debout, elle leur parut grande et de bonne mine. C'étaient des soldats du 146e d'infanterie qui étaient venus de Saint-Avold. Il y en avait d'autres plus loin, entre les arbres, et on entendait des voix jeunes du côté de la Brûlée et la ferme voisine qui appelaient « Par ici, les gars, il y a du vin !» Le sergent Prunier s'était avancé. Il faisait le salut militaire en riant. Il avait une petite figure pas méchante et une moustache mince, toute dorée. Oh, mon Dieu, comme celle! Pardon, excuse, madame, mais les camarades veulent savoir ce que vous avez dans votre sac. Sans répondre, elle ne se baissa vers la poche et la mit debout. Prunier, dit un des soldats couchés et qui mordillait un brin d'herbe. « Ouvre le sac, je devine ce que c'est. C'est du tabac de contrebande, du tabac de la Sarre. »« Bonne affaire, mais criez rien, on le dira pas. La contrebande, ça vous connaît. Tout le monde en fait par ici. Allez, ouvre donc le sac, prunier. » Six jeunes soldats s'approchèrent, dont le sergent Marie. Malthus avait eu peur d'abord, et voici qu'elle attirait le sac, le remontait le long de sa robe, qu'elle rabattait les bords de la poche et montrait la croûte brune du pain de Madame Poinsignon, et qu'elle disait, riant à moitié, « Vous le voyez, je n'ai que du pain pour mon fils. » Ils s'approchèrent encore, penchant la tête pour mieux voir. « Du pain joli, ma foi, dites donc, il ne mangera pas tout ça, votre fils. On va vous en acheter. » Elle écarta deux bras qui se tendaient. Mais par derrière, un homme s'était glissé. Un homme à la bonne face rougeaude et qui riait. Il s'approcha, courbé, se redressa tout d'un coup en levant au-dessus de sa tête un morceau de pain qu'il avait saisi. « J'en ai un, les amis, j'en ai un !» Marie poussa un cri, « Arrêtez-le, il a volé le pauvre !» Mais l'autre déjà courait sous les branches. La femme avait ramené ses deux bras sur le sac et le tenait serré contre sa poitrine comme si ça avait été son enfant même. Elle ne reculait jusqu'à faire plier les branches de l'arbre et à s'appuyer sur deux ailes. Au cri qu'elle avait jeté, des hommes s'étaient relevés. Ils l'enveloppaient dans leur demi-cercle, l'arbre lui-même achevant de la tenir prisonnière. Alors les grands yeux sombres de Marie, de l'arbre coulèrent et deux autres. Le sergent écarta les hommes. « Arrière, les enfants !» « Voyons la petite mère, c'est pas la peine de pleurer pour une miche qu'on vous a prise. Je vais dire à Porio de vous la rapporter. Hé, Porio, fais pas de bêtises, elle pleure, tu sais. Rapporte, mon vieux chien. Faut être chic. T'es comme les amis d'ici, de la première et du deuxième, la plus belle compagnie du bataillon. » Porio ne parut pas. Mais la femme laissa tomber la poche pleine à ses pieds. Et regardant les soldats, elle dit de sa voix, qui était son âme elle-même, émouvante et tendre dans le reproche, « Me prenez donc tout ce que je lui portais. J'ai plusieurs pains parce que je ne sais pas par où il va revenir chez nous, n'est-ce pas? Alors je les mets ici et je les mets là, au carrefour, sur les croix. Il a disparu dans la guerre, mon fils, mais il n'est pas mort, vous comprenez? On aurait retrouvé son corps depuis le temps. C'est à Bétincourt qu'il se battait. » Le sergent qui avait combattu dans les derniers mois de la guerre l'interrompit. Il était devant elle, et tandis qu'il parlait, elle considérait les petits épis de la barbe blonde qui se levaient et remuaient sur les lèvres du sergent Prunier. « Bétincourt, autant dire Verdun, j'y suis allé. Il en est resté par là, ma bonne dame. » De l'avoir pleuré et de penser à des mères comme elle qu'il connaissait bien, les jeunes gens étaient émus et tâchaient tous de ne point le paraître. Il y en avait qui la regardaient bien en face et d'autres du coin de l'œil. Et ils virent, étonnés d'abord, que cette longue figure pâle souriait de ce qu'avait dit le sergent. « Non, monsieur le sergent, j'ai des nouvelles de lui, les nouvelles pour moi toute seule que je ne veux pas vous raconter. À mon avis, il a été tenté par les gros prix qui gagnent les ouvriers dans les provinces dévastées. Je lui ai écrit des bouts de billets. » Elle tirait de la poche de sa robe des carrés de papier et les leur montrait. « Je veux pas qu'il ait trop faim, le pauvre petit. » Car la route est longue, longue. J'ai dit, vous l'avez peut-être rencontré. Il est par là ou par là. » Et de son bras, qui tenait encore les billets, elle traçait une large ligne en l'air qui désignait toute la campagne autour du bois. Et comme ces jeunes gens devinaient bien à présent qu'elle avait l'esprit troublé. Plusieurs s'étaient mis à rire, d'autres la prenaient en pitié. Un homme disait en arrière, « Elle est folle !» Un second plus bas, « Tais-toi donc, folle de cœur, c'est pas méchant !»« La paix, vous autres !» cria Prunier. « Laissez-la raconter, c'est une mère, vous voyez bien !» Marie Balthus avait rajeuni. Ses lèvres fanées reprenaient du rose. L'espérance était revenue, sa compagne si souvent, et l'assistait. « Je vous en prie, vous qui êtes soldat, comme il était, dites-moi que vous en connaissez, vous aussi, des disparus qu'on a vus revenir à la maison de chez eux ?» Deux ou trois jeunes gens, pour lui faire du bien, murmurèrent « Parbleu !» Elle les entendit, et puis elle écouta encore. Elle les considérait de ses beaux yeux doux, l'un après l'autre, leur demandant « C'est pas assez un petit mot ? Rappelez-vous, dites davantage !» Un gros du second rang, qui portait son casque sur la pointe du crâne et la visière en haut, parce qu'il avait chaud, se souvint de quelque chose. « Mais positivement, madame, j'ai appris par une lettre qu'un menuisier d'Hambourg, pas loin de chez moi, était rentré comme ça après 4 ans. »« Bon, il n'y a que 6 à présent, dit-elle, c'est à peu près pareil. »« Moi, dit un autre, le plus haut de taille et qui se tenait tout près de Marie, « moi, madame, j'ai un parent qu'on a cru mort aussi. » L'annonce avait été faite, on avait renvoyé à la famille des petites choses et le livret. Oh, dites vite! Bien, un soir, que son père et sa mère dînaient, il a ouvert la porte. Mais voilà! Ils sont pas tombés morts? Ma foi non, madame, ils ont dit. Il n'y a qu'un couvert à mettre. Alors il a expliqué comme ça qu'il avait été retenu prisonnier chez les Russes. Il y en a d'autres, vous savez. « Oui, mes enfants, oui, et c'est ce qui arrivera chez moi. » Le sergent se détourna. « Porriot, rapplique ici et en vitesse !» Tout le groupe fit demi-tour pour voir Porriot revenir. Marbre mit les arbres, on vit s'avancer tranquillement celui qui avait chapardé un morceau de pain. Prunier se porta vivement au-devant de lui et lui parla tout bas, puis il le prit par le bras et l'amena. Porriot avait encore dans la main droite une partie du pain et le couteau ouvert. Quand il fut devant Marie et que le sergent l'eut lâché, entendant les camarades qui lui disaient « T'as été bête, Porriot, rends-lui donc, faut pas offenser les mères !» Il tendit le pain et s'excusa. J'en ai mangé un bout, j'avais faim. Il est bon, le pain de votre enfant. Mais je suis pas un voleur, je vais vous le payer. En même temps, il fouillait dans la poche de son pantalon, tirait son porte-monnaie et, prenant une pièce de 20 sous, ostensiblement, il la jetait dans le sac de la voyageuse avec le reste du pain. Marie dit. « Oh, il ne vous en voudra pas, mon petit, pas plus que moi. » Un coup de sifflet, rassemblement, les hommes trottent vers la route, on voit des ombres entre les sapins. « Bonsoir, madame, bonne chance, vive votre petit gars !» Les voix s'éteignent. Une escouade, celle qui trouvait de son goût le vin de la brûlée, accourt à grandes jambées et ne voit pas même Marie Balthus, qui recharge sur son dos la poche et prend le chemin qu'ont pris les soldats. Quand elle sort du bois de sapin, le bataillon du 146e est déjà en marche, clairon sonnant. La route n'est qu'une tranchée dans la haute forêt. Marie suit les soldats qui vont plus vite qu'elle et diminue de hauteur et de couleur en s'éloignant. Elle n'en regarde qu'un au dernier rang. Celui dont l'allure dégagée rappelle celle de Nicolas. Elle se demande même si ce n'est pas lui. car il s'est retourné une fois, deux fois. Qu'a-t-il cherché à voir? Ne serait-ce pas la grande femme en noir, si mince, si droite, qui porte un paquet gris sur l'épaule? L'équilibre de l'esprit est vraiment tout rompu ce soir. L'espérance a grandi dans le cœur de Marie Beltus. Le vent froid de la matinée ne souffle plus. Le bataillon en marche n'est qu'un nuage de poussière à l'horizon. Marie a continué de suivre la route. Elle dépasse le bourg de Condé, dont elle aperçoit les maisons étagées. Elle distribue son pain entre les croix du plateau et les troncs d'arbres abattus, dans les réserves de bois nouvellement coupées. Dans le soir apaisé, elle est revenue à Condé, épuisée et heureuse. La voisine, la petite veuve tranquille, lui a demandé « Mais qu'avez-vous donc, Madame Balthus? Vous avez l'air d'une jeunesse. » Elle a répondu « Celui qui me la rendra n'est pas loin. » Mais son secret, elle ne le dit jamais, et au surplus, les autres ne la comprennent pas. Peut-être dans la nuit, Jacques et Oran seront-ils de retour. La mère s'est mise à veiller. L'eau d'une bouilloire chante au coin du fourneau. Chapitre 6. Tard dans la nuit. Très tard, dans la grande nuit de 11 heures, Balthus et Oran descendirent à la gare de Condé-la-Croix. Balthus portait sur l'épaule la petite valise recouverte de peau poilue de sanglier qu'il avait suivie en voyage. Nuit très pure, des étoiles, encore d'armées au-dessus des forêts. Ce n'était pas la saison où la nuit chante. Aux frontières de l'Est, en ces premières semaines d'avril, la vie a le sommeil encore des petits enfants. À peine un rêve, un appel, une plainte la traverse. Il ne gelait pas. La sève dont la saison était venue s'en allait au travail et montait à la découverte. L'air mouillé commençait à ouvrir les bourgeons des arbres et la spirale des herbes. Une odeur de résine descendait des falaises boisées. L'instituteur et sa fille, après avoir marché quelques centaines de mètres sur la route, s'engagèrent dans la première des deux rues du village. Les voyageurs avaient déjà l'âme à la maison. La mère, pendant ces jours passés, qu'est-elle devenue? Les voisins ont promis de prendre soin d'elle, de veiller sur elle sans qu'elle s'en aperçoive, car il ne faut pas la contrarier. Mais ils n'ont pu la suivre. Elle fait de si longues courses, Marie au pain. Nous aussi, nous étions à la recherche de Nicolas. Toute la famille à la poursuite de l'ombre. La mère est-elle rentrée? A-t-elle songé que nous revenions cette nuit? Voici le bureau de poste, bâti au temps allemand, troisième maison du faubourg quand on vient de la gare. Un énorme toit brun couché sur des murs bas. Le bureau est fermé. La receveuse est dans sa chambre au-dessus, car la lucarne là-haut fait un dessin pâle dans l'ombre. On veille aussi dans la villa du maire. Les autres maisons, à droite, à gauche, dorment. Le pas de Balthus et celui d'Oran, rapides, peuvent sonner sur la route. Pas une tête n'apparaît derrière les rideaux. Pas un retardataire revenant du café ou d'une course dans la vallée ne se retourne. La clé, déjà engagée dans la serrure pour voir qui peut passer à pareille heure dans Condé-la-Croix. Voici des boutiques de marchands. La mairie, dont le drapeau de fer fut repeint le 22 novembre 1918. À présent, la route s'infléchit en montant. Voici la forge et le ferblantier Coppa, et puis l'espèce de place au sommet de laquelle est bâtie la chère école. Marie est rentrée. Marie attend. Le phare brille. La fenêtre à gauche en bas est éclairée. « Il faut entrer doucement, » dit le père. « Tu sais, un peu de bruit, elle aurait peur. » Il longea la partie gauche de la façade et à l'endroit où l'immense gerbe d'un laurier faisait ombre, même la nuit, sur les murs et sur les toits, il revit la petite porte de sa maison à lui. Il aurait pu ouvrir la porte ou sonner. Il préféra s'annoncer comme il faisait autant heureux lorsque les deux enfants vivaient et que le ménage était jeune encore. Regardant sa fille qui avait déjà deviné et touchant de la tête les feuilles basses et épuisées des hautes piques de l'arbuste, il chanta à demi-voix « Je suis un enfant de Lorraine ». Aussitôt, l'âme qui veille avec nous, la lumière, s'agita. Elle quitta la cuisine. Elle apparut, faible, puis violente, derrière les vitres qui, au-dessus de la porte, formaient bandeau, et la porte s'ouvrit. Et la mère, avec sa lampe à bout de bras, se pencha. Elle n'avait pas sa figure hagarde, elle souriait, elle disait « Mes amis, vous avez bien du temps à fermer votre voyage. » Lorsqu'ils furent tous trois dans la cuisine, Marie embrassa Orane et son mari, puis elle fit signe à sa fille. « Serre-le et serre-toi, tout est prêt. » Et elle vint s'asseoir près d'une table de ferme massive, longue, et elle éteignit la lampe à pétrole, parce qu'Orane venait d'allumer la grosse lampe électrique perdue au plafond. C'était encore une des manies de la femme de Balthus. Marie au pain, dans son travail quotidien aux heures du soir et du matin, se servait, pour s'éclairer, d'une vieille lampe en cuivre qui avait une anse et pouvait s'accrocher au mur. On la laissait faire. Balthus avait deviné la raison de cette apparente singularité. La lampe datait des années anciennes où Condé Lacroix n'avait pas d'éclairage électrique. Elle avait été maniée par tous ceux de la famille, par les petites mains par conséquent de celui qui n'était pas revenu de la guerre. L'instituteur était assis en face de sa femme et il la regardait, tandis qu'Orane apportait le café, le lait chaud, le sucrier, le bol de faïence à fleurs bleues. Il trouvait le pauvre long visage moins fané que de coutume, les yeux moins inquiets, car il ne se détournait point. Mais retiré au fond de l'ombre bleue qui les cernait, où il s'ensevelissait de plus en plus, il luisait pourtant d'une petite douceur, d'une nouvelle qu'ils offraient d'en la dire encore. « Tu dois deviner qu'il a passé une joie en moi, » et qu'elle m'a laissé au cœur un calme inaccoutumé, fragile. Ne le détruis pas. Traite-moi avec cette tendresse enfermée dans ta rude coque de Lorrain, et que j'ai connue en nos d'années plus jeunes. » Il comprenait le regard de celle qu'il n'avait point cessé d'aimer, mais qui était devenue sa pitié à présent. Il mangeait vite, car le voyage et la course lui avaient donné faim. Puis soulevant le bol de ses deux mains en corbeille, il buvait, et ses regards ne la quittaient guère. Orane, debout au fond de la salle, près de la fenêtre, mangeait aussi, et elle se demandait pourquoi sa mère était ce soir plus pareille à la mère d'autrefois. Ayant bu l'avant-dernière gorgée de café, l'instituteur posa les deux bras sur la table, il avait l'air de les tendre vers sa femme. « Mais qu'y a-t-il, ma bonne ? » dit-il. Les lèvres s'entr'ouvrirent. La voix qui avait chanté près des berceaux retrouva les notes chantantes mesurées au sommeil sacré, prudente. « Il est revenu !» répondit-elle. Les paupières de Balthus s'abaissèrent un moment. Ses cils jaunes battirent dans la lumière quand il rouvrit les yeux. L'illusion avait peu de prise sur cet homme maître de soi et qui savait. Mais les mots ont une puissance, même si nous ne les croyons pas. Il remuait la douleur dans ce cœur résigné. Balthus passa son mouchoir sur ses moustaches pour essuyer les gouttes de café et il mit longtemps à renfoncer ensuite dans sa poche le carré de linge de coton. Et ce fut la femme qui reprit. « Tu n'as eu de lui aucune nouvelle à Verdun ?»«
Non. »
La mère leva les mains pour signifier. « C'est étonnant !» Et sa robe de grosse laine fit les plis sur les épaules tombantes et belles de cette Lorraine. J'aurais dû t'empêcher de partir. J'avais le pressentiment que vous ne pourriez pas rapporter de nouvelles, qu'elles étaient réservées pour une qui ne vit que pour les apprendre elle-même et de lui. Quelles réponses ont-ils faites? La même toujours. Oui, disparu. Un qui n'a sur la terre ni tombe ni maison. Il se trompe. Sa maison, c'est la nôtre, il y sera bientôt. Et comment le sais-tu donc, ma pauvre? Il a mangé le pain que j'avais placé pour lui. En deux endroits parmi les champs, dans la forêt, le pain a été enlevé.
Un oiseau ou un chien?
Mais un oiseau ne pourrait enlever un si gros morceau. Un chien ne peut pas monter jusque-là.
Un errant.
Nicolas en est un.
L'homme éprouvait une douleur cruelle. Ses yeux se détournèrent de celle qui les interrogeait avec passion.
« Je voudrais te croire, ma pauvre Marie. Peut-être, en effet, as-tu raison, contre tous et contre le temps. Mais attends, Balthus, qu'est-ce que cela? Quand la joie est certaine, il est près de nous.
Ne te fâche pas, Marie, ne t'excite pas en me répondant. Je veux seulement bien savoir ta pensée. Tu dis, il est près de nous.
Mais je souhaite tant le revoir que je le crois presque. N'est-ce pas?
Ben, pas tout à fait autant que toi. Mais à ton avis, ma femme, pourquoi ne serait-il pas déjà venu ici, tout droit?
Elle se leva, et elle dit, semblable à une reine, en le regardant de haut, « Mais il m'aurait tué, tu comprends donc rien? Tous les Balthus que vous êtes, vous ne valez pas une femme pour le sentiment.
Oh, crois-tu?
Vous ne devinez pas ce qui nous arrivera. Il faut que vous alliez tout droit, advienne que pourra. Mais lui, qui est de moi et de toi, il est toute imagination et tendresse. Mon fils Nicolas, je ne le verrai que peu à peu. Il s'annonce, il se fait espérer par pitié d'amour. Je l'aime encore plus pour la peur qu'il a de nous saisir. »
Alors, Balthus se leva aussi et il demanda, « Viens, ma Marie, tu dois être bien lasse. »
« Non, pas ce soir. Je suis heureuse. »
« Il faut que tu dormes. Demain, je te laisserai partir sans essayer de te retenir, comme j'ai fait quelquefois. »
« Tant mieux. Je te remercie. J'aurai un jour prochain un signe de mon enfant. »
Eh bien, Marie, il est la grande nuit.
Peut-être a-t-il passé sous nos fenêtres, ne l'avons-nous pas entendu? Viens, minuit est sonné. Bah, tes vacances ne seront pas finies demain matin.
La voix était jeune encore qui répondait cela. Marie Balthus s'avança vers la porte. Comme si le premier pas hors de cette place où elle venait de parler de son fils la libérait de l'obsession, elle détourna la tête en marchant et dit à Oran, témoin immobile au fond de la cuisine, appuyé au mur et songeant,
« Oran, demain matin il y aura le linge à donner à la blanchisseuse. Tu prépareras deux assiettes de soupe pour la femme Barisset, qui viendra de bonne heure pour parler à ton père. » Elle veut mettre son petit garçon à l'école après Pâques. »
Elle ajouta plus bas,
« Mais tout en ordre ce soir, cela vaut mieux. Tu iras aussi demain matin chez la boulangère et tu achèteras 5 pains d'une livre, tu comprends ?»«
Oui, maman.
Bien cuit, il n'aime que la croûte soit dorée. »
La mère disparut dans le corridor et monta l'escalier derrière son mari. La jeune fille remit tout en ordre. Elle donnait à ce travail plus de temps qu'il n'en eût fallu. La conversation qu'elle venait d'entendre lui tenait, malgré la fatigue et malgré l'heure tardive, l'esprit éveillé. Comme les filles issues d'honnêtes ménages et qui voient, à l'âge où elles commencent d'aimer, leurs parents s'aimer encore, faire effort pour ne point s'offenser et porter l'épreuve ensemble, Aurane avait trouvé l'occasion de songer à elle-même. Nous y cédons toujours. Elle se réjouissait de l'exemple donné ce soir. Elle se promettait, si elle pouvait, seule à seule, s'entretenir avec le grand mansuit de la horde et au mouton, et de lui dire « Chez nous, il n'y aura pas un temps et puis un autre temps, mais le cœur que j'ai en moi ne se reprendra jamais. » Et la joie qu'elle aurait à dire cette chose et à parler, toute frémissante de ces longues années graves où l'on ne changerait point, la tenait ravie, tendre et reconnaissante, tandis que dans la cuisine de l'école, elle continuait à veiller. Un à un, elle serra les bols, les cuillères, les assiettes dans l'armoire basse, faite de planches antiques, veinées, semblablement rouges encore, du même rouge pourpré, dont s'étaient nourries les guignes forestières. Chapitre 7. Un essai de dressage. L'été venait. Les élections du 11 mai, l'échec d'un certain nombre de députés nationalistes, l'arrivée au pouvoir de ministres d'opinion avancés, dont la hâte était grande de détruire quelque chose, avaient déjà troublé les esprits en Lorraine. N'allait-on pas imposer aux provinces reconquises la cruelle laïcité, supprimer l'école confessionnelle, exclure les sœurs de l'enseignement et commencer là encore la chasse aux âmes qui prient? Toutes les familles inquiètes guettaient les nouvelles. Dans les villages et les villes, les Allemands, qu'on n'avait pas tous renvoyés dans leur pays, se moquaient. « Gens de Lorraine, disaient-ils, voilà ce que vous gagnez à tant aimer la France !» Les déclarations du nouveau gouvernement vers le milieu de juin ne laissèrent plus de doute. La Lorraine et l'Alsace, jusqu'au fond des forêts, connurent la menace qu'on leur faisait, le cadeau de bienvenue des hommes nouveaux. Dans ces jours-là, une note transmise aux instituteurs et institutrices de toutes les écoles du canton de Saint-Nabord les convoquait à une réunion qui devait être présidée par M. Père Jugot, délégué du ministère de l'Instruction publique, dans ce gros bourg que connaissent les voyageurs. Deux rues qui font la croix, une place au carrefour, des maisons blanches aux toits de tuiles et du côté du nord abritant le village, des forêts qui montent en pente douce. La note disait encore « Réunion toute officieuse où l'on procédera à un échange de vues au sujet du régime des écoles en Lorraine. » Échange en pareil cas signifie monologue. On le savait. Et comme si un pareil programme pouvait ne pas suffire à décider les instituteurs, on ajoutait que M. Couvel, officier d'académie, instituteur principal de l'école publique de Saint-Nabord, exposerait quelques idées sur l'enseignement de l'histoire, objet sans doute de nos plus récentes réunions pédagogiques, mais qui peut se prêter à de nouveaux développements. Le libellé manquait peut-être d'élégance dans la forme. Chacun comprit qu'il exprimait un ordre. Ils vinrent, elles vinrent. La réunion était fixée à 9 h. Dès 8 h 30, quelques instituteurs à bicyclette commencèrent à s'approcher du bourg, la plupart lorrains et d'un certain âge. Ils allaient posément, causant par-dessus le guidon, penchés en avant, pesant sur leurs mains, et non pas droit sur sa selle comme des débutants dont les jambes se détendent et se relèvent sans effort. des dames et des demoiselles de l'enseignement, des maîtresses laïques d'écoles confessionnelles suivaient à distance. On se rencontrera sur la place. « Bonjour, mademoiselle. »«
Bonjour, monsieur l'instituteur. »«
Ah, vous venez pour la réunion. »« Savez-vous pourquoi notre canton est privilégié ?»« Quelles raisons ont-ils, les gens de Paris, de nous envoyer à nous, pauvres petits fonctionnaires de la frontière sarroise, un personnage aussi important pour nous instruire ?»
La jeune fille à laquelle s'adressait l'instituteur, une toute jeune, le visage aimable et décidé, répondait, baissant la voix,
« Ce n'est pas pour nous instruire, mais ce qu'il vient, monsieur, c'est pour s'instruire, lui. Vous croyez ?»«
Mouchard, alors, j'ai connu ça sous l'Ancien Régime. Les Prussiens s'y entendaient. Je n'aurais pas cru ça des Français. Nous mettrons nos bicyclettes dans une des salles de l'école, n'est-ce pas ?»
Il se dirigeait vers la grande bâtisse aux arêtes de briques rouges sous les toits de tuiles roses qui borde la place vers le bas. Une pétarade retentissante annonçait l'arrivée en bolide d'un motocyclette. L'homme parut, gris de poussière, la tête serrée dans une cape de cuir, et fit tout le tour du champ de foire, évidant, d'une balancée rapide et sûre, les bonnes gens inquiets, les enfants effarouchés. C'était un jeune maître de l'intérieur, récemment nommé dans le canton. Une automobile, qui semblait sage après la moto, alla se ranger près de la devanture de l'épicier. Il en sortit un homme grave et nouveau dans le pays. Ce devait être l'inspecteur primaire. Puis, du côté du sud, ce furent plus de 30 personnes qui s'avancèrent sur la place, venant de la gare et traversèrent en diagonale le terrain caillouteux. Il y avait parmi elles un bon nombre de religieuses. Le personnel convoqué était au complet 70 maîtres ou maîtresses lorsque 9 heures sonnèrent. À droite, sur les bancs de la classe la plus vaste, étaient assis les instituteurs, la plupart en jaquette ou en veston. 5 ou 6, trop gros pour se couler entre 2 rangs de tables, avaient été chercher des chaises çà et là dans l'école et se tenaient, épanouis de bustes et de visages, en fil le long du mur. Chose curieuse, ce n'étaient pas les anciens, presque tous lorrains, qui occupaient les premiers bancs. On les voyait à l'arrière du groupe, ceux-là, un peu froids, un peu graves, s'attendant à quelque avanie. Même les jeunes parmi eux avaient cette physionomie disciplinée et prudente qui ne passe pas 3 fois en 1 minute du sérieux au sourire. Solide tête de braves gens, hommes évidemment capables de soutenir un long rôle difficile, et chez lesquels dominait, on le devinait à leurs yeux, la qualité majeure et présidente née, le bon sens. Ils avaient plus de tenue que les collègues des premiers bancs, les instituteurs du cadre métropolitain, animés, drôles ou se croyant tels, et très courtois sans doute avec ceux de Lorraine, mais marquant à de petits jeux de physionomie sans le vouloir, la distance qu'ils imaginaient infini entre les diplômes qu'ils avaient conquis et ceux de l'école normale de la Moselle. Ces nouveaux venus représentaient, c'était une de leurs convictions les plus fortes, la civilisation complète, le progrès, la science. Leur regard volontiers se tournait vers les premiers bancs du côté gauche de la salle où étaient les dames de l'enseignement. Elles n'y semblaient point prendre garde. Un bras demi-nu se levait, une main avec lenteur tournait vers la lumière la pierre carrée d'une bague, un jeune profil d'une distinction véritable demeurait immobile, l'œil aux solives, perdu dans le rêve. Peu de recherche de toilette d'ailleurs, des robes simples,
des dames demi-vieilles ou jeunes encore, dont le visage disait « J'ai beaucoup travaillé, j'ai vécu et je vis dans le tracas perpétuel de l'école, enfant, parent, autorité. Que de fois déjà je suis venu à ces réunions professionnelles sans y prononcer le moindre mot, sans en retirer le moindre bien. » Et au fond de la salle, leurs robes noires serrées l'une contre l'autre et faisant une seule draperie, les cornettes blanches, voilées de noir, s'élevant au-dessus de la table en petite chapelle, 30 religieuses attendaient, paisibles. Cependant, chez la plupart de ces maîtres et maîtresses d'école, chez ceux qui s'agitaient et chez ceux qui demeuraient graves, le sentiment commun était une inquiétude vague. Bien des paroles avaient été échangées entre voisins ou d'une table à l'autre, souvent à demi-voix. Qu'est-ce que c'est que ce délégué du ministère? Que va-t-il nous dire, nous défendre, nous obliger de faire? La seconde question ne pouvait être résolue par personne. La première l'avait été assez rapidement par des hommes qui se prétendaient tous bien informés. Un très gros personnage, vous comprenez qu'on ne nous envoie pas une mazette, c'est un inspecteur général en disponibilité. Allons donc, on les connaît les inspecteurs généraux, il y en a très peu. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient en disponibilité? Avez-vous jamais trouvé cette mention-là à la suite du nom d'un inspecteur général dans nos bulletins et nos journaux? Non, eh bien pour moi c'est un directeur du ministère. « Oh non, j'ai travaillé au ministère, dit un jeune. Il est inconnu, votre Pergaud, je vous en réponds. »« Moi, dit un autre, je crois pas me tromper. Pergaud, ça a été un sous-secrétaire d'État. »« À l'instruction publique ? Oh, je sais pas, ils ne font que passer, on peut pas se rappeler. Mais Pergaud, c'est collé dans ma mémoire comme une carte de visite avec la seconde ligne, sous-secrétaire d'État. » Mais en quelle année? Oh, peu importe, hein, quand ils l'ont été une fois, on leur sert toujours leur titre. Mais comment les appelle-t-on? Il ne faudrait pas, parce que nous sommes en Lorraine, avoir l'air d'ignorer les usages. Bon, ils aiment qu'on leur donne du monsieur le ministre. Alors pourquoi l'a-t-il pas fait mettre sur la convocation? Peut-être est-il modeste? Vous plaisantez aujourd'hui? La qualité ne pouvait être contrôlée. Elle flattait l'assemblée. Elle courut d'un banc à l'autre. On la tint pour très sûre, d'autant mieux que celui qui le premier avait donné le renseignement ajoutait « Le prénom revient, Philibert, Philibert Pergaud. » Deux dames firent une mine drôle et déconfite et dirent oh, « Ce qui doit être vieux !» La porte s'ouvrit. Un inspecteur primaire, ce n'était pas celui qu'on voyait d'habitude à Saint-Nabor, avança le bras, le retira, s'effaça et laissa entrer M. Pergaud, Philibert. Tout l'enseignement était debout. Grand silence, curiosité, sympathie, amour-propre satisfait. Il était beau, l'envoyé. Il marchait comme un doge, en glissant et saluant d'un très léger mouvement de la tête. Front dégarni, crâne encore duveté, figure longue, teint de bibliothécaire, mais nullement maladif au nom, le teint que l'on attribue volontiers à l'homme qui pense. Des yeux très vifs, noirs avec l'étincelle, des moustaches fournies, dessinant un arc et plus bas, cachant le menton, une barbiche d'un brun sombre, taillée avec un soin extrême, non pas en pointe et à la méridionale, mais en ruban d'une largeur égale, ondulée légèrement par la fréquente caresse de la main, une barbiche descendant jusqu'à la cravate de soie claire et se terminant par une ligne droite, nette, qui se brisait si la tête s'inclinait
et qui laissait alors apercevoir le feu d'une émeraude montée sur une épingle d'or. Le vêtement était jeune, et cependant, comme disent les tailleurs, demi-sérieux. Habitué au succès d'entrée, le délégué se présentait avec aisance, n'oubliant ni de s'incliner plus longuement vers le côté gauche de la salle, ni de favoriser les hommes d'un signe de la main condescendant et nuancé de camaraderie. La chaîne du principal de l'école était placée en face de l'allée centrale. M. Pergaud la dépassa un peu afin de mieux exprimer cette sympathie qu'il entraînait vers l'auditoire, revint sur ses pas, monta dans la caisse de bois peint et s'assit, offrant son visage et son buste au regard de ceux qu'il avait mission de séduire, tandis que l'inspecteur primaire, debout près de l'escabeau de la chaire, disait « Mesdames, messieurs, nous avons le grand honneur de recevoir à Saint-Nabor une personnalité éminente, un délégué du ministère. En votre nom à tous, je remercie M. Pergaud d'avoir commencé par notre lointain canton une visite dont la Lorraine ne peut manquer de retirer de nombreux bienfaits. » L'inspecteur s'étant tourné vers un instituteur du cadre métropolitain, celui-ci tira de sa poche un rouleau de papier écolier qu'il commença de rouler en sens inverse pour effacer le premier pli, et comme il regardait vers la chaire en continuant ce petit manège, l'envoyé lui fit signe que la permission lui était accordée et qu'il eut à lire son travail, ce qui ne fut pas sans causer une déception parmi l'auditoire, car on attendait la voix de la personnalité éminente. Et ce n'était pas la philosophie de l'histoire qui préoccupait en ce moment les instituteurs et les institutrices du canton. Le métropolitain, selon l'expression qu'employaient par abréviation plusieurs des Lorrains présents, rappela les études magistrales qui avaient été lues à la dernière réunion pédagogique et donna son avis sur cette science maîtresse des hommes. Mais il ne citait cette parole d'un collègue que pour y contredire, et on le vit bien lorsqu'il eut exposé ce qu'il nomma l'ancienne théorie de l'histoire, ses conceptions erronées, funestes, abandonnées par l'école moderne, et qui, sous prétexte d'impartialité ou d'objectivité, attribuent au fait une importance qu'il n'a pas. Comme il arrive toujours lorsque l'orateur s'engage dans l'abstraction et demande un effort, bon nombre d'auditeurs cessèrent de considérer le collègue au maigre et ardent visage qui déroulait sa prose en l'accompagnant d'un geste coupant de la main gauche. Plusieurs vieilles dames, le crayon sur la lèvre, excitées au contraire par la difficulté, tâchaient de suivre et tout à coup, rabattant le crayon, notaient des mots sur la page d'un cahier. Mais la plupart de leurs compagnes, surtout les jeunes, ayant jugé l'effort inutile et sans agrément, décidaient de laisser faire et de laisser passer. Elles avaient leur physionomie de promenade, tranquille et curieuse. Elles regardaient le beau Pergaud, la fenêtre entr'ouverte, une voisine, un voisin. « Je vous le demande, qu'est-ce qu'on fait? Tout pour les arriérer ?» Pour nous presque rien en soi, le fait ne vaut que par l'interprétation que nous en faisons. Il revit parce que nous vivons. Il est nous-mêmes, comprenant le passé, beaucoup mieux que les contemporains qui l'ont vécu et le comprenaient mal. Par là, l'histoire est variée à l'infini. Par là, elle confine à la politique. Elle est une arme dans nos mains, nous la pouvons polir, aiguiser, orner à notre gré. Je raconte donc, je crée. Je pourrais dire donc j'invente, et je ne connais guère de plus juste méthode que celle de ce penseur si contesté qui avait l'habitude de solliciter les textes, le célèbre Renan. Toute l'histoire est là. » La fin du travail de l'instituteur ne fut qu'un dithyrambe en honneur des méthodes nouvelles de la libération définitive de l'esprit humain. Cette péroraison, toute véhémente qu'elle était, ne percevait assurément ni religieuse immobile ni la plupart des professeurs laïcs. On l'avait lu dans les journaux et jugé misérable.
Plusieurs songeaient, mais à quoi bon ce discours? Nous connaissons tout cela, M. Pergaud ne doit pas l'ignorer. Quelle raison d'avoir fait parler ce collègue avant de nous parler lui-même? Innocence! Cela n'observait pas l'envoyé. Impassible sous l'averse des phrases, M. Pergaud, Philibert, le regard voilé par les paupières à demi baissées, étudiait chaque visage. Il négligeait d'interroger sous la cornette et le voile la physionomie des conventuels. Ne savait-il pas bien ce que pensaient de tout ce verbiage ces filles de la foi et de la tradition? Mais ces hommes, ces jeunes gens, ces filles jeunes ou vieilles des premiers bancs à gauche, tous ces autres maîtres d'école de la province nouvellement rattachés à la France, quelle opinion pouvait-il avoir de ce que disait le métropolitain? Il l'avait déjà lu, avec plaisir, dans les yeux, le sourire, les hochements de tête dans les haussements d'épaule de plusieurs et dans l'air distrait du grand nombre. Des applaudissements peu nourris annoncèrent que l'épreuve était achevée. M. Pergaud laissa couler quelques secondes et parla.
« Je vous le disais bien, ma chère, » fit une toute jeune blonde penchée vers sa voisine. « Il a tout pour lui, cet homme-là. »
Une voix belle, en effet, et pas d'accent. Un air de bonne foi. Une manière si musicale de nuancer les diverses parties d'une phrase que la pensée, comme un vers de romance, demeurait dans l'oreille et semblait négligeable. Voilà ce qui faisait le charme auquel elles étaient prises et ce qui leur semblait nouveau. M. Pergaud poussait loin l'art des variations, à peine s'il remuait ses mains longues. Le regard séduisant, distribué sans préférence aux hommes et aux femmes, il s'adressait à tous, parfois même aux sœurs, et leur laissait deviner, à ces filles d'une province reculée, la courtoisie de la grande ville. M. Pergaud remerciait, sans aucune raison apparente, d'ailleurs, la Lorraine du bon accueil qu'elle lui faisait. Il félicitait le précédent orateur de ses vues ingénieuses et modernes, et, s'interrompant, prenant un ton de familiarité, « Voyons, mon cher camarade, monsieur Couvel, quel a été votre principal professeur d'histoire? Quel a été pour vous le grand livre, vous comprenez ?»«
Michelet, monsieur le ministre. »
Il avait, disant cela, un léger mouvement de tête et un sourire. Évidemment, le mot portait. Au bas de la chaire, l'inspecteur primaire leva le nez puis le baissa. Ce devait être un signe d'approbation. « Ah, Michelet !» dit l'envoyé Michelet. « Et vous, monsieur le principal, à l'extrémité du troisième banc ?»«
Oui, parfaitement, oui, vous-même. Quel a été votre maître, à vous ?»«
Henri Martin, monsieur le ministre. »«
Ah, Henri Martin, un des nôtres aussi, un précurseur. »«
Mais laissons l'histoire ancienne et venons à celle que nous vivons, même mieux à celle qui s'annonce et de laquelle j'ai été prié de vous entretenir. »
L'orateur, d'un regard semi-circulaire, inspecta l'auditoire. Il prit un air épanoui et on vit ses blanches dents. « Vous qui m'écoutez avec une attention, je vous remercie. Sachez que j'ai mis en vous une espérance que vous ne tromperez pas. On vous avait représenté comme rebelle au changement, un peu entêté, rude dans l'expression de vos sentiments. J'ai dit, ils ont tant de qualités, vous me laisserez le plaisir de les énumérer tout à l'heure, que j'irai vers ces instituteurs et institutrices de la frontière, que je leur parlerai en toute franchise, en toute confiance, et que je rapporterai à Paris l'adhésion de ce premier groupe lorrain, la première adhésion au projet indiqué ces jours derniers dans une déclaration solennelle de notre premier. J'aime cette expression « notre premier ».
C'est un des articles anglais que nous avons eu raison d'importer. Ne trouvez-vous pas?
La voix devint plus ferme. Tout le monde écoutait. La petite du premier rang, qui traçait des arabesques au bas de ses notes, avait fermé le carnet.
Il s'agit de progrès, il s'agit de liberté, de ne point avoir dans un même pays, en matière d'enseignement, de législation.
Mais en fait de liberté, nous tenons à garder la nôtre.
La voix qui jetait ces mots-là partait de l'extrémité de la salle. Tous les assistants se détournèrent. Beaucoup applaudirent. Tout ce qui était lorrain, même quelques autres. Deux ou trois nouveaux venus protestaient. L'inspecteur primaire était debout et soufflait à l'oreille du délégué.
Balthus, monsieur le délégué, Balthus, Jacques, l'instituteur de Condé-la-Croix, dont je vous ai parlé ce matin.
Sur le dernier banc, son long torse appuyé au mur, sa tête d'homme d'armes se détachant bien sur la paroi blanche, Balthus regardait l'envoyé. Celui-ci riposta impertinent.
« Croyez-vous donc parler au nom de tous, monsieur l'instituteur ?»«
Parfaitement, monsieur. Si vous attaquez la foi, vous attaquez la Lorraine elle-même. Elle sera toute contre vous. »
Contre la France, alors, dites-le donc.
Contre ses maîtres du moment, et pour la France qui dure. Nouveaux applaudissements, cette fois très ardents. L'envoyé en recevait les bordées sur ses joues. Il cherchait les coupables. Ses regards couraient la salle. Mais d'abord, que font les nonnes? Il vit qu'elles étaient droites, les bras croisés ou allongés sur les tables, et que plusieurs remuaient leurs lèvres, priant sans doute. Il regarda les dames et les demoiselles, et il vit que cet éclat de Balthus avait délivré leurs âmes. Elles étaient fières. Elles n'auraient pas osé dire, les premières, ce qu'il venait de dire, mais elles n'avaient pas peur de l'approuver, et elles restaient tournées vers lui, qui ne les regardait pas, mais qui regardait toujours Pergaud, le président, celui qu'il avait appelé « monsieur ». Les instituteurs lorrains grognaient entre eux avec satisfaction. Plusieurs maîtres venus d'autres départements ne protestaient pas contre les paroles de Balthus. Ils montraient même avec discrétion par leur attitude que cet homme avait raison quand il disait « toute la Lorraine. » Ce n'étaient pas les apostrophes d'une demi-douzaine de jeunes gens qui pouvaient faire illusion. Ils menaient grand tapage. « Ah bon, Balthus ?» On leur répondait. Nul ne prêtait attention au bras tendu de l'inspecteur primaire qui faisait signe. « Mais calmez-vous tous, tous, tous !» Dans la tourmente, Pergaud habitué affectait la sérénité. Il attendit plusieurs minutes avant de se lever, pianiste qui compte les vibrations pour mieux placer la note suivante, et quand il se leva, les assistants se turent.
« Nous n'avons pas à discuter les principes, monsieur Balthus, et vous, mes chers camarades, ils sont édictés par nos assemblées et appliqués par nous. Ce que je désire, ce que je m'efforce de faire, c'est de gagner non pas seulement votre obéissance, elle est certaine. »
Il y eut des hochements de tête un peu partout.
« Mais votre sympathie, pour des idées généreuses, encore mal comprises. L'école neutre n'est aucunement faite pour combattre cette foi que vous avez. Son nom le dit assez, elle tient la balance égale entre les systèmes, elle évite de se prononcer, de juger, d'imposer. »
Et les autres lieux communs vinrent se ranger à la suite de celui-là. Aucun ne manquait à l'appel. Puis, pour rallier les troupes débandées, l'orateur se souvint qu'il avait promis de louer la Lorraine. Alors il la loua, en effet, sans définir les expressions, d'avoir toujours été attaché à la liberté,
et de pousser jusqu'à la rudesse son esprit d'indépendance. C'est pourquoi nulle province n'est mieux faite pour comprendre nos principes des républicains. »
Les mots semblaient s'offrir d'eux-mêmes à ce personnage dès qu'il abordait un sujet politique. Il parla de la monarchie, du Moyen-Âge, de la Révolution, de l'Inquisition, de la philanthropie, de la tolérance, de l'égalité, du tothétisme, de Félix Pécaud et de Lamartine, qu'il admirait également, du génie populaire, de l'avenir indéfini, de la fraternité, de la conférence de La Haye. Comme de telles idées lui coûtaient peu, et que les formules aussi lui étaient familières, il pouvait aisément lire l'accueil fait aux unes et aux autres sur les visages et dans les yeux des auditeurs. Or, il s'étonnait de plus en plus. Les mots tant employés, ses imprécations, ses prédictions, ses basses flatteries au peuple, rien de tout cela ne portait. Toutes ces flèches, bien lancées pourtant, avaient la pointe usée, rouillée, et qui ne piquait plus. Il ne convainquait pas, il ennuyait. N'ayant pas d'autre vocabulaire et n'ayant plus de provisions, il considéra que la partie était perdue et jugea dès lors ses Lorrains comme des imbéciles. Brusquement, il cessa de parler. Beaucoup des claquements de mains qui saluèrent son silence devaient avoir une signification peu flatteuse. Au fond de la salle, un vieux maître d'école, montrant du doigt le délégué, demandait tout bas à Balthus. « Triste discours et désordonné. Est-ce là cette France qui a battu l'Allemagne ?»« Non, mon cher, non. Une de ces figures seulement, l'officielle. »« Mais où est-elle la vraie, la plus belle ?» Balthus toucha son cœur et dit « Là, et dans le tien aussi !» Au même moment, et avant que personne encore eût osé quitter la salle, M. Bergot, s'épongeant le front, désigna du bras gauche les deux instituteurs qui causaient ainsi. « Monsieur Balthus, je vous prie de rester quelques minutes avec moi lorsque nos camarades se seront retirés. La séance est levée !» De nouveau, les regards se portèrent vers l'instituteur de Condé-la-Croix, qui ne sembla pas troublé, et laissa tranquillement ses collègues le précéder. Ils passèrent près du délégué descendu de la chaire et qui s'était placé au débouché de l'allée centrale. On saluait M. Pergaud, on lui serrait la main. Quelques rares instituteurs profitaient de l'occasion pour se recommander aux puissants. L'un d'eux disait en riant, avec une bonhomie affectée, « Moi, voyez-vous, monsieur le ministre, je fais de la religion dans ma classe parce que j'y suis obligé. Quand on me dira de ne plus en faire, je n'en ferai plus. Mon traitement sera toujours le même, n'est-ce pas ?»« Mais oui, mon brave, ah, voilà un homme qui comprend. Ben, je suis pas le seul. » Un tout jeune maître d'école le suivait et disait très haut, « Moi, monsieur le ministre, j'ai toujours bien quelque chose pour moi. C'est que mon père a eu un enterrement civil, il y tenait. » L'envoyé ne dissimula pas son dégoût. Se tournant vers Balthus, qui venait en arrière, il lui indiqua une place à l'extrémité du premier banc et vint s'asseoir près de lui. Il le considérait avec attention et même avec l'espèce d'admiration gouailleuse qu'éprouvent ses pareils devant un homme qui ne cède pas à l'intérêt. « Monsieur Balthus, vous avez été vif, avouez-le. »« Je l'avoue, monsieur. » L'envoyé fut surpris de la sécheresse de ce monsieur, tout court, dans un canton où le « monsieur le ministre » se donnait couramment, mais il n'en laissa rien paraître.
« Ne nous sommes pas compris, je le vois. »
« Oui, c'est vrai. »
Vous m'avez dit que le gouvernement, en mettant à exécution les projets annoncés, allait blesser tous les Lorrains.
Oui, à fond.
Et sans doute, vous entendiez qu'un homme comme vous, très influent, très capable, mais si, je le sais, ne refusez pas l'éloge, n'accepterez pas de devenir ou de demeurer le directeur d'une école neutre, d'une école laïque, si vous voulez. »
Malthus eut le sentiment qu'il se jetait au danger. Il attendit avant de répondre qu'une voiture roulant devant le groupe scolaire se fût éloignée. Et alors, sans témoin, sans l'appui qu'auraient pu lui donner tout à l'heure ses amis des villages voisins, il dit « Je me refuse à ignorer Dieu 6 heures par jour. »
Monsieur Perregaux leva les bras. « Mais je ne vous demande pas de ne pas croire. Je vous demande de ne pas dire ce que vous croyez. »
« Mais vous vous jugez. Permettez, la différence est grande. »
« Pas assez pour moi. »
L'envoyé s'écarta un peu afin de mieux voir encore ce qu'allaient révéler les yeux de Malthus, car il ne pouvait pas rester sur cet échec.
« Je connais votre vie et ses difficultés, monsieur Malthus, et vos épreuves. »«
Grandes, en effet. »
« Votre fils a été tué dans l'armée allemande. »
Malthus regarda l'homme si durement que l'envoyé eut peur de ce grand diable par trop proche.
« Oui. »« Votre femme est très souffrante, m'a-t-on assuré. »
« Une mère qui ne peut se consoler. »
« Dans ces conditions, je craindrais pour vous un changement de résidence. »
« Que dites-vous là ? M'obliger à quitter mon école ? Il faudrait qu'un conseil disciplinaire y consentît. Nous sommes protégés ici et jugés par nos pairs. »
Pâle d'émotion, Malthus avait saisi le bras de l'envoyé et le secouait rudement.
« Mais pas cela, pas cela, entendez-vous ? Si vous me déplacez, elle est morte. »
Monsieur Perregaux, qui jouait encore au tennis, pensa « avantage ».
Il eut le mot sur les lèvres. Puis, rabattant la manche de sa jaquette sur la manchette froissée,
« Mais qui vous parle de vous révoquer, monsieur Malthus ? Vos chefs peuvent vous imposer un changement d'office pour le bien du service, avec avancement.
Il faudrait des motifs.
Il me semble que vous en donnez.
Lesquels, donc ?
Et comment voulez-vous que je fasse ? Que vous l'ayez voulu ou non, vous vous êtes conduit tout à l'heure comme un chef de résistance.
Lorsque je rendrai compte à Paris de ma mission, je devrai vous nommer, répéter les propos que vous avez tenus en public et ceux que vous venez de tenir devant moi. Ils sont nets, vous le reconnaissez. Et vous avez été applaudi. Si je raconte ce que j'ai entendu, je ne vous cache pas que la conséquence est probable. Je ne pourrais pas empêcher qu'on ne vous déplace dans l'intérêt du service, je le répète.
La formule couvrirait une injustice.
Mettons, si vous le voulez, une sanction juste.
Mais l'énergie servait à cela, et plus d'une fois.
Malthus voyait en imagination Marie apprenant qu'il fallait quitter le bourg, et ce désespoir, et peut-être... Comment, sans la tuer, l'arracher à ce coin de pays où chaque jour elle attendait son fils?
La seule chance de salut, ce serait une promesse que vous me feriez de ne plus vous élever contre cette substitution du régime français au régime lorrain. Je ne vous demande pas autre chose. N'encouragez pas la révolte.
Jacques hésita. Cette Marie morte un matin dans les champs, noyée dans le ruisseau de la Bienstein qu'elle traversait tous les jours. Il se détourna et dit, presque sans voix, « Je ne pourrai pas m'y engager aujourd'hui. Je vous donne du temps. »
« Combien ? Ma mission à Lorraine va durer encore une huitaine. J'irai vous demander la réponse moi-même à Condé-la-Croix. Vous serez prévenu. Cela va-t-il ? »
Malthus n'eut pas l'air de remarquer que l'envoyé lui tendait la main.
« Vous m'avez troublé l'âme, monsieur, et je n'ai pas le courage qu'il faudrait pour vous répondre en ce moment, ou par oui ou par non. Allons, j'ai bon espoir que vous ne quitterez pas Condé-la-Croix et que vous serez un des croyants dont l'opposition sage et fort que nous, nous comprenons est précieuse à notre œuvre même qu'elle modère. »
Il se leva.
« Mon cher monsieur Balthus, au revoir. Dînez-vous avec nous ?»«
Mais non, monsieur le juge, je dois repartir. » »«
Alors, à bientôt. »
L'instituteur, dans le couloir d'allée sur lequel ouvraient les classes, quitta l'homme puissant qui se réjouissait d'avoir maté le Lorrain. Balthus s'accusait lui-même. Il répétait en traversant la place « Mais tu as été un chien muet, Balthus, qui aboie d'abord et puis qui se tait par peur des coups. Mais un chien, chien !» Il entra dans le bureau de poste, téléphona d'abord à l'abbé Gérard. « Ta présence est nécessaire à la Horgne ce soir, je compte sur toi. » Puis à Léo, pour l'avertir que les deux cadets se rencontreraient avec leur aîné à la nuit. Il reprit sa bicyclette et rentra à Condé.